RCF.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sûr RCF pour la Chronique Europe de la Maison de l'Europe en Limousin. Il y a quelques semaines, nous avions dédié une chronique à la présidence française de l'Union européenne et plus particulièrement au bilan de celle-ci. Depuis le 1er juillet 2022, la République tchèque a succédé à la France pour endosser ce rôle qui, rappelons-le, consiste à propulser les travaux législatifs du Conseil de l'Union européenne tout en veillant à respecter la continuité du programme de l'Union européenne ainsi que le processus législatif et à la bonne coopération entre les États membres. En résumé, elle s'apparente à un intermédiaire intègre et neutre. Revenons-en au sujet du jour qui nous ramène à en savoir plus sur la République tchèque. Pour cela, nous accueillons Guy Royer, bénévole à Maison de l'Europe, qui animera le 9 novembre un Café de l'Europe sur ce thème, qui est donc mercredi prochain à la médiathèque de Limoges. Bonjour Guy, merci d'être avec nous.
Oui, bonjour à tous.
Donc, pour commencer, on va présenter plus brièvement la République tchèque d'un point de vue géographique.
Oui, la République tchèque, c'est un petit pays d'Europe centrale. C'est pas très grand, ça fait 78 866 km². C'est pas grand par rapport à la Nouvelle-Aquitaine, par exemple. La Nouvelle-Aquitaine, c'est 84 000 km². C'est un pays d'Europe centrale avec comme voisin la Pologne au nord-est, l'Allemagne au nord-ouest et à l'ouest, l'Autriche au sud et la Slovaquie à l'est et au sud-est. Alors géographiquement, on dit souvent c'est le toit de l'Europe. C'est un massif ancien avec de hautes terres, des hauteurs boisées qui ont entre 1000 et 1500 mètres d'altitude. L'altitude maximale est de 1600 mètres. Des hauteurs qui accentuent le côté continental du climat, c'est-à-dire un climat qui est assez rude en hiver et puis chaud et arrosé en été, et parce que c'est en position d'abri. Et alors sur le plan démographique, c'est un pays qui a 10 700 000 habitants, c'est le chiffre de 2021, avec un faible dynamisme démographique. La croissance en 2021 n'a été que de 0,2%. Donc une démographie qui est peu dynamique. Voilà.
Très bien.
Voilà pour la présentation géographique.
Et donc on sait que d'un point de vue géographique, elle est plutôt située à l'ouest, la République tchèque, mais on sait que ça n'a pas toujours été le cas, entre guillemets. On en parle aussi d'un kidnapping. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus de ce point de vue-là?
Oui, c'est Milan Kundera qui a parlé d'un morceau d'Occident kidnappé, la tragédie de l'Europe centrale. Alors en effet, la République tchèque a une longue histoire qui est liée à l'Occident. Le premier État organisé, c'est à la fin du 9e siècle, avec la Bohême, qui était rattachée au royaume de Grande Moravie. Et puis la Moravie a été envahie par les Magyars, et entre le 10e et le 13e siècle, le centre du pouvoir s'est déplacé en Bohême. 14e, 15e siècle, le royaume de Bohême appartient au Saint-Empire germanique. Et le 14e siècle en particulier est un moment important, une période de splendeur, avec Charles IV qui a régné de 1346 à 1378 et qui a été élu empereur en 1355, empereur du Saint-Empire germanique. Puis, entre le 16e et le 19e siècle, la Tchécoslovaquie est noyée dans l'Empire austro-hongrois, pratiquement jusqu'en 1918. Et c'est en 1919 que, à la fin de la Première Guerre mondiale, est créée la Tchécoslovaquie, avec la Bohême, la Moravie et la Silésie, à la suite du traité de Saint-Germain avec l'Autriche. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le kidnapping. Le kidnapping, c'est le coup de Prague, février 1948. Où un gouvernement communiste est imposé au président tchécoslovaque, au président Beneš. Or, ce coup de Prague qui impose un gouvernement communiste, on peut dire qu'il s'inscrit dans la géopolitique européenne des lendemains de la guerre. En effet, pour l'URSS, il s'agit de couvrir le flanc sud de sa zone d'occupation en Allemagne. Et la Tchécoslovaquie est alors considérée comme un coin qui est fiché dans le bloc communiste. Donc, la Tchécoslovaquie va devenir une république populaire. Et le souvenir de ce coup de Prague reste présent en, en Tchécoslovaquie, puisqu'en 1968, vous avez peut-être le souvenir du printemps de Prague. Vous n'étiez pas né, vous, mais enfin, on a, avec Dubček, qui était le premier secrétaire du Parti communiste, il a tenté une expérience de socialisme à visage humain. C'est-à-dire, il s'agissait de concilier le socialisme et la liberté. Mais il y a eu intervention du militaire du pacte de Varsovie en août 1968. Dubček a été exclu du Parti communiste et remplacé par Husák. Et on est revenu à la démocratie populaire classique. Alors le retour à l'Ouest se fait effectivement en novembre-décembre 1989 avec ce qui a été appelé la révolution de velours. Il faut replacer cela dans le contexte de la chute du mur de Berlin. En Tchécoslovaquie, des manifestations extrêmement importantes, une grève générale, et le Parti communiste tchécoslovaque abandonne le pouvoir. Et à partir de là, ben, la République la République tchèque devient une République fédérale tchèque et slovaque. Alors la partition entre la République tchèque et la Slovaquie aura lieu quelques années plus tard, au début du mois de début de l'année, plus exactement en 1993. Là non plus, pas de violence, mais des négociations entre les dirigeants des deux États. Et on a donc d'un côté la République tchèque et par ailleurs la Slovaquie.
Très bien. Et donc on voit que la République tchèque a eu un passé historique assez important et qui s'est reflété notamment dans son architecture. Et donc ce point de vue culturel a pu avoir une influence sur au point de vue touristique et avoir assez un impact important.
C'est ça. Sur ce passé historique, il a laissé un héritage important. Et les géographes parlent de paysage culturel. Qui traduit un paysage qui traduit l'emprise, qui est le résultat de l'emprise ancienne d'une population nombreuse, avec des bourgades industrielles qui sont très très nombreuses et une organisation des paysages qui est indifférente aux périodes et aux systèmes. C'est-à-dire que c'est très ancien. Alors, vous parliez du tourisme. Prague est la ville d'Europe centrale. C'est une des plus belles villes du continent européen. C'est la cinquième ville la plus visitée en Europe. Et de manière plus générale, la République tchèque, elle compte 800 musées et un nombre de châteaux par habitant qui est le plus élevé d'Europe. Il y a eu 37 millions de touristes en République tchèque en 2019, ce qui place le pays au 7e rang mondial. Et c'est le premier pays touristique en Europe de l'Est. Alors, en particulier, Prague, donc, une ville qui est magnifique, avec un contraste, je pense ne pas l'avoir dit, un contraste très marqué entre le noyau historique et puis la périphérie d'immeubles très standards qui ont été construits à l'époque soviétique.
La République tchèque a subi aussi de nombreux changements donc, au niveau politique. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui au point de vue de son situation politique ?
Oui, dès l'indépendance, il y a eu une réforme des institutions. Et les Tchécoslovaques se sont tout de suite orientés vers les démocraties de type occidental. Alors actuellement, la République tchèque, c'est une république parlementaire avec 200 députés qui sont élus pour 4 ans au scrutin proportionnel. Il y a un Sénat qui compte 81 membres élus pour 6 ans. Le gouvernement qui est actuellement au pouvoir, c'est le résultat des élections d'octobre 2021. Et c'est une double coalition qui est au pouvoir actuellement, à la suite d'une victoire de l'opposition de la droite et du centre. Le gouvernement est dirigé par Petr Fiala, difficile à prononcer le nom. Et le chef de l'État, le président de la République, c'est Miloš Zeman, qui appartient lui à la gauche populiste. Il a été élu déjà en janvier 2013, réélu en janvier 2018, et il est élu pour 5 ans, c'est-à-dire que son mandat prendra fin en 2023. Il a des prérogatives constitutionnelles limitées, mais peut jouer un rôle influent dans le débat public. Et on peut ajouter deux mots sur le contexte économique, puisque le système socialiste a été abandonné à la suite de l'indépendance, et retour à l'économie de marché, une économie qui est la plus développée d'Europe centrale. On connaît des entreprises comme Skoda, Avast, Bata, les chaussures, mais Bata a des difficultés au moins en France, je crois, actuellement. Alors, il y a un certain déclin, une certaine rétraction de cette industrie actuellement au profit des services. En fait, c'est une économie qui est très développée en Europe centrale.
On parlait d'économies notamment qui arrivent en France. Donc, d'un point de vue international, comment se situe la République tchèque, notamment avec ses partenaires ?
Alors, avec l'Union européenne, la République tchèque a adhéré le 1er mai 2004. L'adhésion a lieu. Les Tchèques ont 21 députés au Parlement européen. Ils n'ont pas adopté l'euro, bien qu'ils aient conservé leur monnaie, la couronne tchèque. La République tchèque appartient aussi au groupe de Visegrad. C'est un groupe qui a été fondé en 1991, qui réunit la République tchèque, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie. Et ces États-là sont favorables au renforcement du Conseil européen, c'est-à-dire de l'action des chefs d'État et de gouvernement, plutôt au détriment du pouvoir de la Commission. Alors il y a aussi le problème des réfugiés qui se pose, parce que cette République tchèque, elle appartient à l'espace Schengen, qui est un espace de libre circulation. Mais le pacte sur l'asile et la migration qui a été proposé par la Commission européenne a été accueilli très fraîchement, et la République tchèque s'oppose à la mise en place d'un mécanisme permanent de relocalisation des réfugiés. Cependant, ils ont accueilli récemment entre 360 et 400 000 réfugiés ukrainiens. Et c'est là qu'il faut faire la transition avec la politique étrangère de la République tchèque, qui adhère à l'OTAN depuis mars 1999, qui soutient l'Ukraine. La République tchèque défend l'intégrité territoriale de l'Ukraine, lui accorde une aide matérielle, une aide militaire. Et bien entendu, ça s'accompagne de tensions avec la Russie. Déjà depuis 2014, il y a eu des explosions dans des entrepôts de munitions en République tchèque. Et ces explosions ont été attribuées à des agents secrets russes. Alors avec la Chine, en 2016, le président Milos Zeman avait reçu le chef d'État chinois, Xi Jinping, à Prague, et il voulait faire de la République tchèque la porte d'entrée des Chinois en Union européenne, avec les fameuses routes de la soie, enfin fameuses, les routes de la soie dont on connaît. Prague devait être sur une de ces routes de la soie. Mais il y a une évolution dans l'opinion actuellement en République tchèque, et en septembre 2020, par exemple, il y a eu une visite du président du Sénat à Taïwan, ce qui a provoqué une crise diplomatique avec les Chinois. Donc là, les tensions sont toujours existantes avec la Chine.
Et donc pour revenir sur la présidence de l'Union européenne, comme je l'ai expliqué au début de la chronique, la République tchèque a succédé à la France. Et en quoi consiste son programme, ou en quoi a-t-il consisté, puisqu'elle se terminera le 31 décembre 2022? Et donc, est-ce que vous pouvez nous résumer brièvement?
Oui, c'est la deuxième fois que la République tchèque préside le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire le Conseil des ministres. Et donc là, on est dans le cadre d'un trio, c'est-à-dire une présidence tournante. La France exerçait cette présidence au trimestre précédent, et la Suède prendra le relais au premier semestre 2023. Alors il y a un programme commun du trio, mais chaque État a ses priorités. Et la République tchèque a quatre priorités. Le respect des valeurs de l'UE, la résilience, la résistance des institutions démocratiques, ça c'est le premier point. Ensuite, la relance de l'Union européenne après la guerre en Ukraine. Le renforcement des capacités de défense et de cybersécurité en complémentarité avec l'OTAN. Et assurer la sécurité énergétique et la diminution de la dépendance de l'Union européenne par rapport aux énergies fossiles russes. Alors on voit avec ces quatre points que cette présidence tchèque est dominée essentiellement par la situation en Ukraine.
Merci beaucoup Guy pour le temps que vous nous avez accordé et toutes ces explications, en espérant que ce soit un peu plus clair pour nos auditeurs. Et je remercie nos auditeurs également de nous avoir écoutés. Ne manquez pas le rendez-vous à la BFM de Limoges pour un café de l'Europe qui aura lieu donc le 9 novembre. Donc, et aussi la journée aussi de l'Europe qui aura lieu organisée par la Maison de l'Europe. Et nous, on se retrouve le 17 novembre pour la prochaine chronique. Au revoir.
Au revoir.